Mon nom est Catherine Gervais et je suis kinésiologue.
Et moi, Joëlle Fortisouci et je suis physiothérapeute.
On anime Ton Périnée en santé, un podcast pour les mamans de tous âges et les futures mamans.
On démystifie tout ce qui touche à la santé abdominopelvienne de la femme. Ici, pas de tabou, on veut informer et enseigner.
So let's go!
Salut tout le monde! Salut Catherine!
Salut Joëlle!
J'espère que tu vas bien.
Yes!
Aujourd'hui, je veux qu'on parle de c'est quoi une compensation. Et j'ai vraiment deux sujets différents parce qu'on entend souvent « Ah, t'as mal parce que tu compenses ». Mais dans mon quotidien, je vois aussi ce qu'on appelle des compensations du plancher pelvien. Fait que je voudrais élaborer sur ces deux types de compensations et qu'est-ce que ça veut dire.
C'est une bonne idée de sujet. Allons-y!
Allons-y! Donc, si on parle de la compensation suite à une blessure, c'est une adaptation naturelle du corps pour continuer de fonctionner. Fait que d'un point de vue survie, mettons là, que c'est bien pratique. Hein, parce qu'on ne voudrait pas se laisser abattre là, par une blessure puis ne plus être capable de marcher ou manger, ou etc. Fait que je donne l'exemple là, de boiter suite à avoir une entorse de cheville, mettons. Fait que ça, c'est un mécanisme de notre corps. La boiterie, dans le fond, c'est qu'on diminue le temps qu'on passe sur la jambe qui fait mal, en gros. Fait qu'on ménage la cheville et on va utiliser davantage de muscles de l'autre jambe, par exemple. Et pour notre mobilité, ben, de la même jambe, on va utiliser un petit peu plus la hanche, le genou, pour continuer à fonctionner. Fait que ça, c'est les compensations qui pourraient arriver suite à une entorse de cheville. Dans notre domaine. T'sais, c'est vraiment touché parce que c'est délicat. Excusez, moi puis mes anglicismes. Tout est interconnecté dans le corps. Okay? Fait qu'une partie qui fonctionne moins bien peut se faire aider d'une autre pour récupérer. Et si tu vas voir un professionnel suite à une blessure, ben ça se peut qu'il te dise « Ah, tu sais, t'as mal là parce que ça, ça bouge pas » ou « ta, ta, ta ». Mais ça, ça reste une histoire, une théorie. Puis, je vais peut-être contre mon métier, je ne sais pas. Mais moi, je pense qu'il faut faire vraiment attention à ce genre d'histoire-là. Parce que des fois, j'ai quelqu'un qui arrive, mettons, en clinique. Et au lieu de me dire, j'ai mal en avant de ma hanche quand que je marche ou quand je force, peu importe. Mais elle me dit, ah, mon psoas est faible. Mes fessiers aussi sont faibles. Puis, mes ischios, ils manquent de souplesse. Puis là, je suis comme... C'est vraiment pas ce que je veux savoir. Parce que c'est des histoires, dans le sens où quelqu'un l'a possiblement évalué. Puis peut-être qu'à ce moment-là, c'était vrai que son psoas était faible, mais peut-être que son psoas voulait pas contracter à cause que ça pesait sur une bursite. Bref, ça peut être tellement de choses et c'est impossible à vérifier. Fait que faut juste y aller avec un grain de sel de vous savoir que votre corps a la possibilité de guérir et qu'il y a des personnes qui sont croches, qui n'ont pas constamment mal. OK? Rappelez-vous, là, pensez à quelqu'un, mettons, qui naît avec un membre ou une partie d'un membre en moins. Est-ce qu'ils sont condamnés à une vie de douleur? Pas nécessairement. Dans le fond, ces personnes-là vont compenser. Oui, c'est une question de survie. Ils n'ont juste pas le choix. Et la beauté de la chose, c'est que vu que c'est progressif, dans le fond, parce qu'ils commencent à bouger comme n'importe quel être humain, progressivement, il apprend à marcher, il apprend à se déplacer, il apprend à s'alimenter, etc. Le corps, il s'adapte. Certains ligaments qui seraient moins forts chez quelqu'un qui a tous ses membres vont être plus forts chez quelqu'un qui lui manque une partie, un doigt ou une jambe carrément. Fait que même si la personne est croche, elle est capable très bien de fonctionner. Bref, c'est de garder ça en tête. Puis souvent, le risque de blessure, quand on a une compensation suite à une autre blessure, c'est la surcharge. C'est qu'on ne va pas ralentir notre train de vie puis qu'on va... vouloir continuer à être aussi actif, un peu dans le déni, on va se le dire. Là. On va continuer dans le déni et on va pas s'en occuper. Et là, nos ligaments, muscles, tendons, qui ne sont pas habitués à toute cette charge-là, ils vont avoir de la misère à prendre le dessus. Le repos va être insuffisant pour guérir et c'est là qu'on se blesse par compensation.
Ce genre de bilan musculaire-là que des fois d'autres professionnels vont faire ou que toi peut-être tu fais aussi, des fois, le lendemain, ça sort pas pareil.
Parce que le stress de... Tu sais, là, mettons, au moment qu'on enregistre l'épisode, OK, c'était l'Halloween hier.
Le stress de l'Halloween.
Le stress des parents ou la charge que des fois la maman a de, tu sais, le costume préparé, tout ça. Puis là, il y avait eu la première neige, le froid. Le... On est méga stressé, go, 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 cette journée-là. Si le, l'après-midi de l'Halloween ou le lendemain de l'Halloween, la maman avait une évaluation là, dans ce genre-là, ça se peut que tout est tendu, tout est faible. Puis on la réévalue 2-3 jours après, puis ah, crème, le calme, le stress est moins là, puis que ça va mieux. Fait que c'est ça, des fois, il y a des situations qui arrivent dans nos vies familiales puis, ou au travail aussi qui fait que ça peut changer d'une journée à l'autre. Puis l'autre point que je voulais aussi rajouter sur ce que tu as dit, c'est que des fois, des personnes, oui, vont se blesser ou vont avoir une douleur à un endroit, puis vont faire un scan, un IRM d'une certaine région de leur corps, puis crime, vont se rendre compte que, ah ben je faisais une imagerie au niveau du thorax, mais on voit que dans le cou, elle a... une hernie ou un début de quelque chose, mais la personne n'a jamais eu mal au cou, n'a jamais eu mal au coude, au poignet. Elle a fait une radiographie au niveau des côtes, peut-être, puis que là, le médecin a dit ah, il y aurait quelque chose au niveau du cou, mais elle n'a jamais, jamais eu mal. Fait qu'il y a des gens qui ont des hernies, qui ont des...
20%.
Ouais, c'est vrai, 20%, là, oui. Hein, c'est ça. La... Beaucoup de monde qui n'ont aucun symptôme malgré des trucs qu'on va voir dans l'imagerie ou dans les radiographies, qu'on est comme, oh mon Dieu, c'est sûr qu'elle a mal, check, elle a ça, ça, ça. Puis nous, des fois, on trippe. Moi, j'aime ça voir... Mais non, la personne, elle a zéro mal. Fait que...
C'est un autre aspect de mon métier qui est vraiment important. Ouais. Faut que l'image, la présentation clinique, c'est-à-dire ce que la personne dit, colle avec l'imagerie. Sinon, ça justifie pas, non, ça explique pas. Puis...
Des fois, on aimerait donc bien ça de « Ah, t'as mal là à cause de ça que... », ouais. Mais non.
C'est comme l'arthrose. C'est tout le temps l'arthrose. Hein? Ben, parce que c'est l'imagerie la plus simple. Ouais, c'est ça que c'est tu vrai. Vas voir à une radiographie. C'est beaucoup osseux.
Donc, t'as mal à cause que tu fais de l'arthrose, ouais. Mais dans le fond...
Souvent, on balaie ça. Du revers c'est de la main à l'arthrose. Puis... ouais. Mais tu disais l'Halloween, le stress, tout ça, je suis 100% ouais. D'accord. Moi, j'ai même vu, c'est un physio, il s'appelle le physio-détective, il est en anglais, of course. Puis justement, je me suis inspirée de lui dans cette version-là, justement, de l'histoire, parce que ça m'a... il faisait une vidéo, là, puis justement, il testait la force d'épaule d'une fille, là, comme devant elle, à forcer. Il dit « Parfait », tu sais, comme « Poup », elle avait une bonne force, mettons. Il pèse, je sais pas où, sur son bras, sa jambe, whatever, elle réessaye, elle a pas de force. Fait que, tu sais, t'es comme, en dedans de 2 secondes, ah ouais. Il a réussi à changer. Puis, tu sais, c'est là que c'est inexplicable, selon moi, là. Mm-hmm. Mais dans le fond, c'est que ton corps, il va gérer ça, ta force, l'intensité, ton amplitude, selon comment il se sent.
Puis c'est constamment une autoroute entre le cerveau, les ouais. Muscles, les muscles et le cerveau, tout le temps. Fait que ça peut changer, je dis, aux journées. Mais ouais. Oui, en dedans de 2 minutes. Où,
c'est comme
l'inverse est aussi vrai. Des fois, ils font des manipulations. Oups, OK, la force en ouais. Vient là. Mais est-ce que ça va se maintenir dans le temps? On ne le sait pas.
C'est comme la souplesse, tu sais, à ouais, quel point que d'étirer ou de masser quelque chose va vraiment améliorer la souplesse d'une structure. Par exemple, la bandelette, c'est hyper controversé dans mm-hmm. Le sens où ce que la science tend à démontrer ou les études, c'est que non, ça change pas. Fait que tu mm-hmm. Dis, OK, mais mon intervention, elle a marché. Tu sais, comme la personne ouais. elle a recommencé la course puis elle est bien. OK, mais qu'est-ce que j'ai fait de bord? Ouh, ouais. Là, ça s'en vient un petit peu plus poussé, tu sais, niveau physiologique, dans le sens qu'on n'ira pas là dans le podcast. Là. Mais c'est pour dire que les histoires qu'on compte, la raison de pourquoi, mm-hmm. On peut se compter des choses, puis des fois, on va être dans le champ, puis on ne saura jamais.
C'est ça.
On ne saura jamais. Fait que c'est pas de s'ostiner avec un professionnel non. De la santé, mais c'est juste aussi des fois d'accepter un autre point de vue par rapport à notre blessure, notre compensation, mm-hmm. Notre douleur, etc.
Ce qui ressort souvent, c'est que ton psoas est trop fort, tes trapèzes aussi sont trop forts, tes trapèzes supérieurs, puis tu fais de l'arthrose. C'est comme les affaires que tout le monde, on dirait, j'ai mal à cause de ça. Ça, c'est comme à chaque jour, sûrement que tu entends ça. En tout cas, moi,
hey, j'ai une idée de vidéo TikTok, puis là, je suis comme, tu me fais passer à ça, là. Mais genre, mon idée controversée, moi, c'est, vous irez écouter mon TikTok sur Miss Pelvis, là. Mais c'est genre, arrête d'étirer ton trapèze.
Ouais.
Je vais expliquer pourquoi. Mais là, on y va pas, là, mais suspense.
Tudu.
Ouais, on va écouter ça, là, parce
que. Faut que tu sois prêt quand l'épisode va
faut
sortir.
Faut que ça sorte, là, mais tu sais, comme, dans mon milieu, ça serait un commentaire controversé, là.
Ouais. Ouais.
Fait que bref, la surcharge, ça arrive quand que tes structures n'ont pas assez de repos, qui subissent un stress répété et finalement, ça résulte à une blessure. Il n'y a pas. En faisant un petit peu de recherche Internet, je voyais des patterns que moi, je vois pas. C'est-à-dire, il disait, oh, quand on se blesse à telle place, ben, il y a telle autre place qui est fréquente. Puis je suis comme, oh non, moi, j'ai pas observé ça. Fait que je vais juste en nommer un exemple, là, mais des douleurs que je vois souvent ensemble, moi, c'est, ou qui vont très mal ensemble, c'est douleurs de genoux et douleurs de bas de dos. Puis dans le fond, tu sais, si on s'entraîne puis qu'on apprend à faire des squats, ben, ça fait bien du sens comment que ces deux-là, si tu as une blessure à un, ça va pas aider l'autre. Parce que pour aider le dos à bien forcer, souvent, ça nous prend une certaine flexion du genou. Mm-hmm. Fait que si de plier le genou ou juste mettre du poids sur notre genou, ça fait mal, mais là, le dos va se surcharger, va forcer davantage. Fait que même chose à l'inverse, si le dos est blessé, bien là, c'est nos genoux. On va forcer beaucoup avec nos genoux. Ils vont se retrouver dans une position un peu, voyons, pas inadéquate, mais désavantageuse mécaniquement. Ça fait du sens?
Ça fait du sens.
OK. Puis c'est ça, dans le fond, pour éviter ça, le meilleur truc que je peux vous donner, c'est d'aller écouter notre épisode sur les douleurs aiguës. Donc, ça va être les meilleures pistes de solution. C'est la gestion de votre blessure initiale qui est la plus importante parce que c'est là que vous allez permettre, que vous allez moins compenser. Fait qu'admettons, j'ai un autre exemple. Une entorse de cheville. Bon, ben on va recommander des béquilles. On va même pouvoir ajuster vos béquilles pour ne pas vous blesser avec vos béquilles. Et même chose, si ça a besoin d'une attelle. OK, on va vous montrer le taping. On va vous dire, procurez-vous telle attelle, etc. Fait que c'est pour dire que si vous vous blessez, c'est aigu, vous ne savez pas quoi faire, c'est un bon moment d'aller en physiothérapie. C'est vraiment notre dada. On est excellent à vous dire comment gérer votre blessure initiale. Des fois, si vous en avez un physio, vous pouvez même l'appeler, il va vous donner quelques conseils au téléphone parce que souvent, quand c'est vraiment dans la première semaine de blessure, ça ne vaut pas la peine de le taponner. Fait que de grâce, étire-toi pas le bobo. Quand il vient d'arriver, ça ne va pas faire de bien, tu vas empêcher tes cellules de guérir, etc.
C'est dans l'épisode 55 qu'on parle de tout ça.
Yes. Fait que pour continuer, moi, c'était pas mal ça, les compensations blessures. T'avais-tu d'autres expériences, toi, des choses que tu vois souvent ou...
Que je vois souvent, non. Je dirais qu'en travaillant avec les mamans femmes enceintes, c'est vraiment quand même tout varié.
C'est ça,
elles
sont pas tant...
Mais les entorses de cheville vont être quand même assez fréquentes, des douleurs au poignet aussi. Mais c'est ça, des fois, c'est juste que la... T'sais, entorse de cheville, oui, ça peut partir des fois sans avoir... de rééducation, si on veut. Mais des fois, ça va revenir. On va avoir des récidives parce qu'on n'est pas allé au bout de toute la guérison. Dès qu'on n'a plus de douleur, c'est comme si, c'est réglé. Mais il y a certaines blessures que, justement, pour éviter certaines compensations ailleurs, peut-être, mais juste pour comme aller au bout, là, il faut quand même finir la rééducation aussi des chevilles, la proprioception, la force, l'endurance. Fait que, il y en a que, dès qu'ils n'ont plus de douleur, ils arrêtent de faire de la physio, par exemple. Ils arrêtent de faire les exercices que le kinésiologue va avoir donné, mais ils ne sont pas allés tout travailler. Puis là, ils refont un sport, ça revient. Ils refont notre affaire, ça revient. Ils retombent enceinte, prolactine, ça revient. Fait que je dirais que ça va être la même chose aussi en rééducation post-accouchement. Si tu n'as pas fait chaque étape de ta rééducation, ça se peut que tu sois plus fragile à avoir des symptômes. Fait que aller au bout de la guérison, c'est ça. Dans n'importe quoi, c'est pas parce que tu as plus mal que c'est guéri. Je pense que ça vaut la peine d'aller tout travailler ce qu'il y a à travailler, puis après ça, de dire OK, je pense que ça va bien. Mais ça, c'est quelque chose que des fois, je vais recommander de. Mais là, je suis allée en faire, puis ouais, mais t'en as eu combien de rendez-vous? Un. Ouais, c'est peut-être pas assez. T'étais-tu assuré que tout était correct? Non. Mais peut-être que le dossier n'est pas clos, là, nécessairement.
C'est intéressant. Ouais. Puis je le vois même, mettons, en rééducation périnéale, une fois que j'ai fait un suivi postpartum, que tout va bien, ils reviennent me voir au deuxième. Wow! Ils sont vraiment meilleurs, là. Tu sais, comme on repart de vraiment moins loin. Souvent, c'est ça, en un rendez-vous ou deux sont.
C'est ça, juste de se faire dire oui, tout est correct, puis tout est bien guéri.
C'est ça ce que tu vas chercher, ce que tu gagnes comme talent ou compétence, ben ça peut se maintenir, puis ça va se regagner plus rapidement s'il arrive quelque chose.
Ouais.
Ça, bon, fait que jason, plancher pelvien.
Oui.
Parce que dans le fond, le plancher pelvien, là, les compensations, c'est une toute autre histoire que les compensations de blessures. Dans le fond, c'est que c'est une zone qu'on ne voit pas facilement. On n'a pas vraiment été éduqué à sentir notre plancher pelvien.
C'est tabou. C'est tabou,
même
c'est sale.
La mise à la propreté, on en a jasé, là, mais c'est moyen, les pratiques actuelles. Il y a place à amélioration pour que, justement, dès notre jeunesse, on soit capable de mieux connecter avec nos besoins dans le sens de, OK, j'ai besoin d'uriner, fait que je vais sur la toilette, j'ouvre la porte, etc. Fait que bref.
Sans pression de quelqu'un de la famille, du service de garde, sans pression de...
Sans bonbon si on va sur la toilette.
C'est ça, ouais.
On essaye. mais c'est ça. Fait que dans le fond, vu que c'est assez tabou puis qu'on le voit pas, la connexion cerveau-muscle est vraiment moins bonne. Ce qu'on peut utiliser à la maison, dans le fond, ça sera un miroir. On peut essayer de faire connaissance avec notre vulve, notre plancher pelvien, puis un peu son mouvement quand on contracte. On en a parlé davantage dans, je crois, c'est l'épisode 2 du podcast sur la contraction du plancher pelvien. Fait que je t'invite à faire ça. Mais bref, c'est comme si les signaux se perdaient entre le cerveau qui décide de contracter le plancher pelvien et le muscle qui reçoit un message vraiment comme « Voyons, qu'est-ce que je posais faire? » Tu sais, comme la connexion est souvent... difficile, moyenne, puis ça, c'est pas précis. On va dire ça comme ça.
C'est l'épisode 3 de comment bien contracter. Mais l'épisode 2, c'est sur tous les muscles profonds aussi. Mais ils vont quand même pas mal ensemble.
Ouais, ouais, ouais.
Si on écoute le 2 pour bien comprendre comment c'est fait en bas, après ça, le 3, là, boum, on est des championnes.
Puis, on en a aussi déjà parlé de ça, mais le plancher pelvien, il fonctionne pas tout seul dans le corps. Fait que c'est quoi le besoin d'être capable de le contracter de façon isolée? Je vais vous dire ce que ça aide, c'est vraiment à sentir le relâchement de ce groupe musculaire-là. C'est une des choses les plus difficiles qu'on fait en clinique, au-delà de la contraction, le relâchement. Parce que pour beaucoup de femmes, les symptômes vont venir du fait qu'elles contractent un peu le plancher pelvien sur une longue période sans s'en rendre compte. Fait que ça demande beaucoup de travail, mais c'est une des raisons pourquoi que j'aime pouvoir isoler le plancher pelvien pour rééduquer sa fonction musculaire. Ça va aussi vous aider à bien relâcher, là, à bien vider la vessie puis le rectum là, quand on va aux toilettes. Puis si on veut faire du renforcement, c'est vraiment utile de pouvoir l'isoler pour faire des exercices spécifiques. Puis après ça, on l'intègre avec des exercices qu'on appelle fonctionnels, c'est-à-dire avec le diaphragme, avec les abdominaux, en mouvement, etc. Là, on va venir aux compensations. Fait que c'est quoi les compensations fréquentes que je vois avec le plancher pelvien? Je vais les nommer, puis après ça, je vais dire un peu ce que je vois. Okay? Fait qu'une des plus fréquentes, c'est les fessiers. Dans le fond, les fesses vont contracter quand on pense à contracter le plancher pelvien. Et dans certains cas, il va y avoir une contraction du plancher pelvien. Dans d'autres cas, il va à rien avoir. Fait que, puis les fessiers, ça peut être un muscle synergiste. Là où je n'irai pas chicaner une femme, c'est si elle n'a pas tout fait sa rééducation, puis qu'elle tousse ou qu'elle éternue, puis elle contracte ses fesses, ben c'est correct. Mais quand tu vas venir faire ta musculation, tes exercices de plancher pelvien, c'est vraiment mieux. Moi, j'appelle ça faire le ménage, OK? Quand on fait le ménage, dans le fond, on essaye de se débarrasser le plus possible de nos compensations. Les fessiers, ça donne l'impression que tu stabilises, mais ça ne soutient pas vraiment au niveau vaginal et ça ne retiendra pas, je ne sais pas comment dire, là, si tu... a de la difficulté à retenir un gaz ou une selle et que tu essayes tout le temps de la retenir avec les fesses, ben ça va dégénérer un moment donné parce que ça marche pas. C'est bien plus efficace de contracter le sphincter anal. Fait que bref, les fessiers, c'est vraiment une des plus habituelles. Je recommande souvent aux femmes qui font ça de s'asseoir sur une chaise et de essayer de remonter les parties génitales le plus possible sans sentir qu'elles bougent, dans le fond. Parce que quand on a une pression sur les fessiers, ben on le sent aisément. Là, quand ils contractent, on va se soulever de un centimètre, c'est là, mais c'est ça, c'est comme on sentir que ça bouge. Versus que si je fais le plancher pelvien, ben je ne bouge pas par rapport au siège, mais pas pantoute. Là. C'est juste la partie du milieu qui décolle. Puis encore là, je vais dire juste pour dire, parce qu'il y a plein d'autres peaux là, autour du plancher pelvien, autour des organes externes. C'est pas ça pantoute, je voulais dire, moi. Autour de la vulve puis de l'anus, on va le dire. Après ça, il y a les abdominaux. Mesdames, si vous avez une descente d'organes, c'est le pattern que je vois le plus souvent avec la descente d'organes, c'est une dominance des abdominaux. Ce que ça veut dire, une dominance des abdominaux, c'est que si moi, je regarde, puis je vous dis, contractez votre plancher pelvien ou contractez ton plancher pelvien, il va avoir les abdos en premier. Fait que ce que ça fait, c'est que ça l'empêche le périnée de remonter vers l'intérieur. Ça va énormément nuire à votre musculation du plancher pelvien parce que, j'aime bien comparer encore une fois le plancher pelvien au bicep, là, mais pour muscler le bicep, on utiliserait toute son amplitude. Mais là, ce que ça fait les abdominaux, si on a le plancher pelvien faible, ça l'empêche le périnée de contracter sur toute son amplitude, ça l'empêche la remontée du plancher pelvien. Fait que ça, là, il est vraiment Moses, mais il vaut la peine d'être travaillé. Fait que ce que je donne comme conseil aux femmes, souvent, c'est de mettre les mains sur le, en haut du nombril sur le ventre et de laisser le ventre le plus mou possible en même temps qu'elles essaient de remonter l'anus, par exemple, d'essayer de boire un smoothie avec le vagin, etc. Puis, on va vouloir refaire la même recette dans toutes les positions. Fait que passer de, éventuellement, de coucher à assise à debout. Parce que c'est vraiment dur à se débarrasser de la dominance des abdominaux et elle n'est vraiment pas bonne. Contrairement aux fessiers que tu dis « bof ». Ça l'essaye de remplacer le plancher pelvien, c'est pas pratique, ça peut mener à des maux de dos.
C'est
t'sais.
Moins grave, ouais. Peut-être, les conséquences.
Ah, ouais, ouais. Parce que dominance d'abdos, c'est les descentes, c'est aussi, ça peut être les futurs nerfs. C'est vraiment pas une bonne. Une bonne
faites
nouvelle.
Le test.
Ouais, c'est ça.
Main sur le ventre.
Ben, en gros, c'est, tu sais, si vous voulez vraiment faire le test, mettez-vous debout, puis essayez de sentir. Vous pouvez insérer un doigt au niveau vaginal, c'est con, là, mais c'est vraiment ça ma recommandation. Là. Et contractez votre plancher pelvien. Si vous sentez que ça résulte en une pression vers le bas, vous avez probablement une dominance des abdos parce que le bémol, c'est que si vous contractez de façon maximale votre plancher pelvien, souvent le transverse, donc les abdos profonds qui durcissent le ventre, vont comme suivre. Ils vont suivre un peu comme une vague, mais ça ne va pas être le premier muscle à contracter. Fait que, si vous pensez que vous avez ça, ça vaut la peine d'être en rééducation périnéale. Puis, tu sais, j'ai vu des femmes un petit peu plus âgées qui, on va le dire, hein, ça leur adonnait pas là, de se faire évaluer au niveau du vagin. Puis, ils partent après une fois, un rendez-vous, mettons, des exercices. Ils reviennent, puis dans le fond, ils ont fait leurs exercices avec une dominance d'abdos. Fait que ce sont quasiment nuits. Des fois, la descente d'organes, ils reviennent et pire, tu sais, puis ils sont comme, hey, je comprends pas, les exercices marchent pas. Ben, c'est que, dans le fond, il n'y avait pas un bon patron de recrutement. Fait que c'est là que ça peut être dommageable. Fait que c'est vraiment important de consulter puis de faire un suivi si on pense finalement qu'on ben, si on a une descente d'organes, on va se le dire.
Yes.
Une autre compensation que je vois souvent, c'est tirer avec le diaphragme. Fait que ce que ça a de l'air, c'est que ta cage thoracique va remonter vers le haut ou ta cage thoracique va s'ouvrir. C'est une triche non dangereuse, mais absolument pas fonctionnelle parce que, dans le fond, c'est un muscle qui est similaire à, on va dire, une inspiration. Le diaphragme qui s'ouvre, c'est de l'inspiration, puis tiré par en haut. Et on n'utilise pas ça dans notre quotidien. Là où le périnée est plus vulnérable, c'est quand on force, quand on tousse, quand on expire avec force. Fait que si tu entraînes ton plancher pelvien à contracter juste quand tu ouvres ton diaphragme, tu ne l'entraînes pas au bon moment, tu ne l'entraînes pas à résister aux bons muscles, etc. Fait que ça peut te donner l'impression que tu fais bien tes exercices parce que tu sens une aspiration vers l'intérieur au niveau vaginal. Mais à long terme ou debout, ben, ça devient carrément pas... ça sert à rien.
Ouais.
Fait que, comme je disais, elle n'est pas full dangereuse, cette compensation-là, mais on essaye de se concentrer à recruter les muscles anal, vaginal, etc. Des genres de compensations que je vois qui sont normales, fermer la bouche. Souvent, quand on contracte le plancher pelvien de façon maximale, la bouche va se fermer tout seul. Puis c'est comme un sphincter, dans le fond. Fait que la théorie, ça serait que les sphincters se ferment, la bouche se ferme. Fait que ça, c'est 100% normal.
Quand tu mets du mascara, elle s'ouvre, la bouche.
Mais je sais pas, pas si on ferme les yeux, ça contracte mieux le plancher pelvien. Je pense pas. J'ai essayé, mais... mais oui, t'as raison. Pour, dans le fond, une autre compensation qui est aussi normale, des fois, c'est les orteils qui plient avec la contraction du plancher pelvien. Ça reste comme dans une même synergie. Donc, les muscles qu'on appelle intrinsèques aux pieds peuvent aider le plancher pelvien. Fait que souvent, c'est ça, tu sais, on appelle ça aussi notre ligne centrale ou médiane. Si notre activation est bonne, souvent, il va y avoir une belle arche plantaire, une belle remontée du périnée. Tandis que, sais, tu remarqueras peut-être ça chez,
moi, en train
chez tes clientes.
Voir,
okay, là.
Les pieds.
Mais mettons, tu te mets debout puis que tes arches sont affaissées puis que les pieds vont vers l'extérieur. Tu sais, comme c'est un signe que l'arche, voyons, la ligne médiane n'est pas forte. Elle est un peu affaissée. Fait que bref, contracte ton plancher pelvien. Essaye de voir si tes pieds... Ah, moi, je pense qu'ils ont le goût de réagir un peu, les miens. Là.
OK. En théorie, ouais. Ça devrait pas réagir.
Bah, mais ça
si
peut.
Ça réagit, c'est pas...
Vraiment pas dramatique.
Dramatique.
Puis pour certaines femmes, ça va aider. Plancher pelvien, mettons, tu te mets debout. Encore une fois. Fais-le avec moi. Lève. Essaye de soulever l'arche plantaire. Essaye de pas le faire avec tes orteils, là, par exemple. Juste de lever le milieu du pied. Puis de réessayer une contraction de plancher pelvien. Tu peux tester sans faire cette activation-là. Puis souvent, ça va quand même provoquer une contraction plus forte du plancher pelvien. Okay. Fait qu'à tester, mais tu sais, pour les femmes qui soulèvent des charges puis tout ça, ça peut être quelque chose d'intéressant à intégrer dans le soulèvement de charge. La dernière compensation que j'ai qui est quand même normale, c'est les jambes qui shakent. Parce que dans le plancher pelvien, il y a aussi des muscles de hanche. Fait que si tu viens vraiment tout recruter de façon maximale, ça se peut que tu aies des muscles de hanche qui contractent. Fait qu'ils vont comme shaker, mais ils vont pas nécessairement faire de mouvement. Okay. Ça, c'est normal aussi.
Bon.
J'essaie de réfléchir si j'ai d'autres compensations vite de même. Je dirais les seules autres compensations, c'est de pas être capable de dissocier le plancher pelvien et la respiration. C'est bon de s'entraîner avec ça, mais c'est un autre bon outil que d'être capable de le dissocier. Parce que comme je disais, le message du cerveau, plancher pelvien, ben, il y a différentes fibres aussi musculaires. C'est bon de les pratiquer toutes. Okay. On va aller aussi chercher celles qui ont un recrutement volontaire versus celles qui sont un petit peu moins volontaires avec la respiration, tu sais, plus automatique. Mm. Fait que bref, il y a de tout. Puis justement, d'avoir une variété de capacités, d'être polyvalente du périnée.
C'est ça qu'on veut.
C'est payant. Fait que c'était beaucoup de P, j'espère, que mon micro. Mais bon.
Yes.
Fait que, t'avais-tu d'autres choses à ajouter, Catherine?
Non, c'était pas mal ça.
Merci.
Merci tout le monde. On se dit à bientôt. Hey, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si tu as apprécié, n'hésite pas à le partager avec toutes les femmes de ton entourage qui pourraient être intéressées par le sujet de cet épisode. Tu peux aussi nous laisser une note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts. On te remercie vraiment beaucoup de soutenir notre mission et à la semaine prochaine!